Merci Pierre. Veuillez ouvrir votre Bible à l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'inhabituel. Pour nos visiteurs, notre habitude est d'avoir une prédication textuelle, c'est-à-dire nous étudions des livres par des passages systématiquement, prenant un passage après l'autre. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à Colossiens chapitre 2 et verset 16, et je vais vous prêcher de manière thématique. Et je vais lire les deux versets suivants et vous verrez pourquoi je vous donnerai un peu d'explication. Verset 16 du chapitre 2. « Ainsi donc, dit Paul, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, et pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, sabbat au pluriel. » Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Les faux enseignants sont arrivés à Colosse. Ils veulent dire aux chrétiens que c'est bien d'être sauvé par Jésus. Jésus est le sauveur et il vous donne le début. Mais pour vraiment arriver à la plénitude de la vie chrétienne, il vous faut Jésus plus. Et le plus, ils disent, il vous faut des visions, il vous faut certaines pratiques ascétiques, c'est-à-dire traiter durement ton cœur, et il faut pratiquer certains rites juifs. Et par ces moyens, vous allez accéder à une plénitude, une puissance que Jésus ne vous est pas donné tout seul. Et voilà une hérésie qui dit en quelque sorte que Christ n'est pas suffisant. Et Paul écrit cette épître pour nous montrer qu'en Christ, nous avons toute la plénitude, car en lui, dans le Fils de Dieu, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et nous sommes en lui. Que pouvons-nous vouloir de plus lorsque nous l'avons. Mais Paul est en train de finir un avertissement à ce sujet et il arrive à cette partie au sujet des rites juifs que les faux enseignants disent qu'il faut à tout prix garder si vous allez accéder à la plénitude. Et Paul dit dans ces versets que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, probablement des questions alimentaires de l'Ancien Testament, des animaux impurs qu'on ne pouvait pas manger, etc., ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Donc, il est question ici, entre autres, de sabbat, et je vais prendre ce matin pour vous parler du jour du Seigneur. Parce que bien des chrétiens dans nos milieux, dans les milieux évangéliques, pensent que ce verset signifie qu'il n'y a plus de jour de Seigneur. D'accord ? Que nous n'avons que 9 commandements, pas 10. Que le 4e commandement, souvenez-vous du sabbat pour le garder saint, n'existe plus pour les chrétiens. Cette attitude est très très répandue et basée sur ce verset et deux autres dans le Nouveau Testament. Mais nous allons prendre le temps pour voir que, en fait, l'Ancien et le Nouveau Testament nous poussent dans une autre direction. Il n'y a plus de sabbat, mais il y a un jour du Seigneur. Et donc, je veux vous montrer pour... Donc, on s'écarte de Colossiens pour un moment, afin de nous aider à ne pas aller dans une mauvaise direction. OK ? La première chose que je voudrais vous dire au sujet de ce verset, c'est que vous avez remarqué 3 termes dans le verset 16. Que personne ne vous juge au sujet d'une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Maintenant, ces trois termes sont utilisés sept fois dans sept versets différents de la Bible, en dehors de Colossiens. Et chaque fois, ils sont alignés dans le même ordre. Fête, nouvelle lune, sabbat. Et chaque fois qu'on parle de ces trois termes, c'est une manière de dire tous les jours saints, sacrés, judaïques. Je vous donne juste deux versets que vous avez sur votre feuille là, si vous avez la feuille, le plan du message. C'est un peu dense aujourd'hui, bien plus que d'habitude. Mais d'abord en Osée 2, 13, donc sous l'introduction, je ferai, dit Dieu, je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. D'accord ? Le deuxième verset, Ézéchiel 45, dit la même chose. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes, des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennités de la maison de l'Éternel. Donc, Paul est en train de parler de tous les jours sacrés, que ce soit le jour de la Pentecôte, ou que ce soit le jour du pain sans levain, ou ce soit n'importe quelle fête, ou nouvelle lune, ou jour sacré des Juifs, où ils devaient souvent monter à Jérusalem pour célébrer la fête. D'accord ? Pâques, le jour de Pâques, ces jours-là. Maintenant, vous savez que lorsque Paul utilise le mot sabbat au pluriel, il n'est pas en train de parler uniquement du sabbat juif de samedi, c'est-à-dire le sabbat hebdomadaire, parce qu'il y avait d'autres sabbats pour les juifs qui ne tombaient pas sur le samedi. Rappelez-vous, nous avons étudié Lévitique et nous avons vu que parfois, par exemple, lorsque le jour de Pâques tombe un mercredi, ce jour est un jour de sabbat. Ok, donc il y a des sabbats hebdomadaires, mais il y a des sabbats spéciaux, et donc Paul est en train de parler de tous les sabbats, pas le sabbat de samedi, mais les sabbats différents. D'accord, donc dans notre texte en Colossiens 2, lorsque Dieu vous dit « ne permettez à personne de vous juger au sujet de fêtes, de nouvelle lune ou de sabbat », il est en train de dire « vous avez le droit maintenant d'écarter de votre pratique chrétienne tous jours sacrés de l'Ancien Testament. Ces jours ne sont plus valides parce que ces jours sont une ombre, dit-il dans le verset 17. Tout cela n'est qu'une ombre des choses à venir. Et maintenant que Christ est venu, on n'a plus besoin des préfigurations, des ombres. Par exemple, le jour de la Pâque nous parle d'une délivrance par le sang d'un agneau, n'est-ce pas? Or, le vrai agneau est déjà venu et nous avons été délivrés par lui du péché, donc nous n'avons plus besoin d'une fête pour essayer de nous dire avant que ça ne vienne à quoi ça ressemble. D'accord? Et si nous revenons en arrière et nous disons que Dieu tient à ce que nous célébrions ces jours juifs, ça veut dire que nous sommes en train de dire que Christ n'est pas venu. J'ai besoin d'une photo de ma femme lorsque ma femme n'est pas là. Mais quand elle est là, je n'ai plus besoin de la photo. Et lorsque Christ est venu, on n'a plus besoin de ces photos de l'Ancien Testament qui sont les symboles, les préfigurations. D'accord. Ok. Introduction finie. On va y aller. Premier point. Maintenant, le sabbat juif est fini dans tous ses sens, mais il en reste quand même un jour du Seigneur. Premier point. Le jour du repos au Seigneur a été institué au moment de la création pour toute l'humanité et pour toute la durée de l'histoire humaine. Écoutez-moi, le sabbat a commencé quand? Le sabbat n'est pas une institution juive qui a commencé au moment de Sinaï et qui était donnée à Israël. Le sabbat a commencé bien avant. Il était donné à Adam et Ève dans le jardin et avec eux à toute l'humanité. Et pour toute la durée de l'histoire humaine, on a besoin d'un jour de repos. Ok, nous lisons dans Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu a créé tous les animaux et tout le reste. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit, nous sommes au septième jour de la création. Et en ce jour-là, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia au moment de la création, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, les théologiens nous disent, avec leurs grands mots, comme ils aiment utiliser, que le jour du Seigneur, le jour du repos du Seigneur est une institution créationnelle. Ça veut dire que c'est fait au moment où l'homme est fait et que ça, c'est lié au fait d'être homme. Tant qu'il y a des hommes, il faut un jour de repos. Maintenant, dans la Genèse, il y a plusieurs institutions créationnelles. Est-ce que vous les connaissez? Je vous en donne quelques exemples. Il y a le mariage. Dieu crée ça au moment de la création. Il y a le travail. Dieu commande à Adam de cultiver le jardin, ainsi de suite. Il y a la reproduction sexuelle. C'est une institution créationnelle. Dieu dit, reproduisez-vous. D'accord? Et il y a, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je crois que ça vous donne l'idée déjà, n'est-ce pas? Toutes ces choses font partie de la vie humaine tant qu'on est humain sur Terre. Le travail, la reproduction, et ainsi de suite. Mais si la reproduction, le mariage, le travail sont perpétuels, le jour de repos aussi, parce qu'elle est une institution créationnelle comme les autres. Ça ne peut pas cesser tant que l'homme ne cesse pas. Je vous donne tout simplement un petit exemple pour vous montrer que le sabbat n'est pas une réalité qui vient seulement au moment de l'alliance judaïque, de l'alliance mosaïque. D'accord? Nous allons avancer dans l'histoire. Le peuple d'Israël est délivré d'Égypte, se chemine vers le pays promis, et donc passe quelque temps dans le désert, n'est-ce pas, à cause de sa faute. Et pendant 40 ans, le peuple est nourri de la manne. Et Dieu donne des consignes au sujet de cette manne. Regardez en Exode 16, vous l'avez sur la feuille. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le sixième jour, il ramassait une quantité double de nourriture, le sixième jour. Deux omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour de repos. Les Juifs ne sont pas encore arrivés à Sinaï. Il n'y a pas de judaïsme encore. Il n'y a pas les 10 commandements encore. Il n'y a pas d'alliance mosaïque encore. Mais il dit, demain est le jour de repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, ainsi de suite. Donc, il n'explique pas ce que c'est que le sabbat. Il dit simplement, demain c'est le jour de repos, le sabbat, comme s'ils doivent savoir, sans qu'il y ait encore des 10 commandements. Et puis, dans le passage suivant, toujours en Exode 16, le septième jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois ?» Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour deux jours. Donc il les reproche, « Jusqu'à quand est-ce que vous allez violer le sabbat ?» Comme si c'est une chose qui est là depuis longtemps et ils doivent savoir qu'ils doivent garder ce jour de repos. Ok ? Maintenant, ok, donc c'est une institution créationnelle qui existe avant l'alliance mosaïque. Un deuxième point qui nous montre que le jour du Seigneur est pour nous aujourd'hui, c'est pour nous, il y a un bien, il y a quelque chose, une bénédiction formidable, c'est que quand Dieu a donné les 10 commandements, je vais jusqu'au point 2 maintenant, le jour de repos du Seigneur fait partie des 10 commandements, la loi morale permanente pour la conduite de tous les hommes de tous les âges. Maintenant, pensons juste un moment aux 10 commandements. Il y a deux sortes de lois que Dieu donne. Il y a des commandements moraux, il y a des commandements positifs. Un commandement positif, c'est un commandement qui n'a rien de bien ou mal de manière intrinsèque, mais Dieu nous dit de faire ça quand même. Par exemple, il a commandé aux Juifs de monter 3 fois à Jérusalem pour adorer chaque année. Il n'y a rien de moral dans le fait de monter à Jérusalem plutôt qu'à Bouc-Bel-Air, n'est-ce pas? Mentir, c'est toujours mauvais. Dire la vérité, c'est toujours bien. Mais monter à Jérusalem, c'est pas moral en soi. Ok? Ça, c'est un commandement positif. Dieu les donne pour un moment et puis il les écarte après. Mais les commandements moraux qui concernent le bien et le mal sont perpétuels. Alors, par exemple, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée de moi, parce que cette image sera fausse. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne mentiras pas. Et tu ne convoiteras pas dans ton cœur ce qui est à ton voisin. Tous ces commandements, j'en ai cité les 9 sur les 10, sont des commandements que... Lequel est-ce qui n'est pas valide aujourd'hui? Tu peux voler, tu peux tuer, tu peux mentir, tu peux commettre l'adultère, tu peux avoir d'autres dieux, sauf le vrai Dieu, ou prendre son nom en vain. Tous les 9 sont perpétuels. Mais le 10e est donné dans la même loi par le même Dieu et d'une manière spéciale qui montre que lui aussi, avec les 9 autres, doit être permanent. Comment est-ce que Dieu a montré que les 10 commandements doivent être permanents? Regardez bien dans Exode 20, que je vous ai... je crois que vous devez... Oui, sur la partie 1. Je crois qu'on va plutôt sauter ça. Lisez avec moi les 3 passages en Deutéronome. On va aller vite. Et je vous demande simplement de regarder la manière spéciale dont Dieu a donné les 10 commandements, mais pas les autres. Vous savez qu'il y a quelques centaines de commandements dans l'Alliance Mosaïque. Les scribes disent combien? 630 ou quelque chose comme ça, dans ce genre. Mais il n'y en a que 10 qui sont donnés d'une manière très spéciale, et vous allez relever avec moi qu'est-ce qui est spécial. Deutéronome 4. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne de Sinaï. La montagne était embrasée par le feu jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, du brouillard. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles. Donc ils ont entendu Dieu lui-même, mais vous n'avez point vu de figure. Il n'y avait qu'une voix. Il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles, c'est-à-dire les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Maintenant, nous avons déjà 2 choses qui sont spéciales dans la manière de donner les 10 commandements qui ne concernent pas le reste des commandements. Premièrement, Dieu a donné les 10 commandements directement par sa voix du ciel. Si on était là, on aurait entendu une voix du ciel dire « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dans les autres centaines de commandements, c'est par la voix de Moïse qu'on a reçu ces commandements. Deuxièmement, Dieu lui-même les écrivit sur des pierres, dit le texte. Or, tous les autres commandements, à part les 10, qui les a écrits? Moïse les a écrits sur quoi? Du parchemin. Maintenant, vous voyez que Dieu est en train de distinguer nettement les 10 du reste. On continue, deuxième passage en Deutéronome. telles sont les paroles, il vient de citer les dix commandements une deuxième fois, et en parlant des dix commandements, il dit, telles sont les paroles que l'Éternel adressa à toute votre assemblée à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et du brouillard, sans rien ajouter. C'est-à-dire, ces dix sont à part. Vous ne pouvez pas mettre d'autres commandements dans le même panier que ces dix. D'accord ? Il les écrivit sur les deux tables de pierre qu'il me donna. Troisième passage. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du droit de Dieu, conformément à toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu de feu le jour du rassemblement. Ce fut au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna les deux tables de pierre, les tables de l'Alliance. Et donc nous voyons que les dix commandements ont cet aspect de permanence parce que la pierre, les écrire sur pierre plutôt que sur papier comme le reste, c'est parce que le papier, après quelques centaines d'années, oui, ce n'est plus là. Mais la pierre est une image de permanence. Il y a juste une chose de plus, c'est que dans l'Arche de l'Alliance, si nous allons dans le temple, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, vous ne pouvez pas, mais si on le faisait, on trouverait une boîte, une caisse, qui est appelée l'Arche de l'Alliance, très saint. Et dans cette caisse, il y a les dix commandements. Les dix commandements. Tout le reste de la loi, le livre de la loi de l'Éternel, c'est un livre des autres prescriptions que Dieu donne, n'est pas dans l'Arche de l'Alliance. D'accord ? Et vous avez une autre indication que ces dix commandements sont d'une sainteté et d'une permanence unique. Et cela veut dire tout simplement que le quatrième commandement, nous ne pouvons pas dire qu'il n'existe plus aujourd'hui. Parce que Dieu nous a commandé de garder ces dix. Maintenant, je vous dirai juste en parenthèse et puis on va aller vite vers le Nouveau Testament. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ok. Si vous réfléchissez avec moi, quand Dieu nous donne ses commandements, il dit, je suis le Seigneur de l'adoration. Et je fais régner ma loi d'amour sur qui vous adorez, pas d'autre Dieu devant ma face, sur la manière dont vous adorez, pas d'image taillée, okay, et sur quand vous adorez, le jour du sabbat. Je fais régner ma loi d'amour sur la vie humaine. Vous ne commettrez pas de meurtre. Je fais régner ma loi d'amour sur les relations familiales. Tu honoreras ton père et ta mère. Je fais régner ma loi d'amour sur la sexualité. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne prendras pas la femme ou le mari d'un autre. Je fais régner ma loi d'amour sur les possessions matérielles. Tu ne voleras pas ce qui est à l'autre. Et donc, dans tous les domaines de la vie humaine, et c'est difficile de trouver un autre domaine, le domaine de mes paroles, tu ne diras pas un mensonge, tu ne mentiras pas, ou le domaine de mes désirs, tu ne convoiteras pas. Si je compte mes désirs, mes paroles, mes possessions, ma sexualité, mes relations familiales, et tout le reste, Dieu est en train de dire « je suis Seigneur de tous les domaines ». Mais si vous enlevez le quatrième commandement et vous dites qu'il n'y a plus de sabbat, ça veut dire que le Seigneur n'est pas Seigneur de votre temps, du temps. Parce que rappelez-vous que le quatrième commandement ne commande pas simplement un jour sur sept, mais règle comment vous passez la semaine entière. Et le commandement dit « vous travaillerez six jours et vous vous reposerez un jour ». Donc, Dieu dit, je suis Seigneur de la manière dont vous allez vivre de semaine en semaine, et il y aura un rythme qui correspond à l'être humain. Vous savez que lors de la Révolution française, les révolutionnaires ont voulu effacer toute trace du christianisme. Donc, ils ont instauré une semaine de 10 jours. Et vous savez qu'après quelques temps, ils ont dû revenir à la semaine de 7 jours parce qu'ils ont trouvé qu'il était humainement impossible de tenir 9 jours de travail chaque semaine. Nous sommes faits pour fonctionner selon le quatrième commandement. 6 jours de travail et 1 jour de repos. C'est incroyable, n'est-ce pas? Nous arrivons donc au point 3. Le jour du repos au Seigneur est enseigné, j'aurais dû dire, oui, comme un commandement en vigueur pour notre temps par Jésus. Donc, je vais juste vous dire que lorsque nous regardons la vie de Jésus, nous voyons en 11 passages bibliques différents qu'il garde toujours le sabbat lui-même et qu'il enseigne que le sabbat est un bien pour l'homme. D'accord? Est un bien. Tu feras du sabbat tes délices. Je pense que dans notre vie familiale, le sabbat, le jour du Seigneur, a été une des plus grandes bénédictions. Mes enfants ont tous plus de 20 ans maintenant. Mais en vivant le jour du Seigneur comme un jour au Seigneur, comme un jour de repos, ça nous a tellement bénis en tant que famille. D'avoir ce jour délicieux, de se tourner vers les choses de Dieu, le repos et la communion fraternelle, le culte, un jour vraiment complètement différent et à part. Une grande, grande bénédiction. Mais Jésus enseignait que le sabbat était un bien, mais aussi était un commandement perpétuel. Et j'en suis au point B. Timon vous a lu ce passage en Marc 2 qui finit, Jésus finit en disant, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Maintenant, les gens comprennent très peu souvent cette phrase qui est pleine de sens et très importante, mais nous allons dégager 3 choses. Jésus dit que le sabbat est fait. Regardez bien, le sabbat a été fait. Le mot qu'il utilise est le même mot pour faire l'homme. C'est un mot qui signifie créer. D'accord? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme, c'est-à-dire l'homme a été fait pour le sabbat. Il est en train de nous renvoyer à la création. Il n'a pas dit le sabbat a été donné ou le sabbat a été commandé. Il dit le sabbat a été egneto. Le sabbat a été créé, était fait à la création pour l'homme qui est fait au même moment. Donc c'est une institution créationnelle, comme nous avons dit tout à l'heure. Deuxièmement, Jésus dit que le sabbat était fait pour l'homme, non pas pour Israël. Le mot qu'il utilise en grec est anthropos, le mot pour l'homme ou l'humanité. Le sabbat a été fait pour l'humanité, pour l'homme, non pas pour les Juifs. D'accord? C'est très important. Si c'était une disposition pour Israël, il l'aurait dit. Il aurait dit, le sabbat a été fait pour vous, ou le sabbat a été fait pour Israël, mais il dit, le sabbat a été fait pour l'anthropos. Et ça veut dire que tout le monde aurait pu dire à ce moment, le Seigneur a dit que le sabbat a été fait pour moi, parce que je suis anthropos, je suis homme. Troisièmement, il dit, puisque le sabbat a été fait pour l'homme, l'humanité entière, le Fils de l'homme est Seigneur ou Maître du sabbat. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qui le Fils de l'homme? Ben, nous savons que Jésus emploie souvent ce terme pour parler de lui, mais pourquoi? En Daniel chapitre 7, le Fils de l'homme est le Messie qui vient prendre toutes les nations et tous les peuples dans son royaume. Et il va dominer dans l'ère messianique, nos temps. Il va régner sur un peuple qui constituait de tous les peuples. Enfin, un peuple élu qui constituait de tous. Regardez le passage avec moi. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Le voilà. Il s'avança vers l'ancien des jours Et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Ainsi de suite. Donc, Jésus est en train de dire, puisque le sabbat a été fait pour l'homme universel, puisque moi je suis le Messie avec un royaume universel, ça veut dire que le sabbat appartient à mon royaume et j'en suis le maître. Je peux le modifier, je peux en faire ce que je veux, mais certainement il n'en est pas le Seigneur pour le détruire. D'accord? Il veut dire que ce sabbat fait partie du royaume du Messie, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Alors ça, c'est peut-être un peu technique pour vous, mais c'est extrêmement important. Il lit le fait que le Messie, lorsqu'il vient pour établir quelque chose de nouveau, un peuple nouveau, il prend le sabbat à lui. Il en est maître. Maintenant, par sa résurrection, Jésus fait quelques changements dans le sabbat. Écoutez bien, parce que nous ne gardons pas le sabbat comme les Juifs. Le sabbat a changé de vêtements. Il a enlevé ses vêtements Ancien Testament, la loi, avec son accent sur la rigueur et la condamnation, et il a revêtu un vêtement de grâce. Dans l'Ancien Testament, si tu travaillais le sabbat, on t'exécutait. Oui. Mais c'est la même chose pour le déshonneur aux parents. C'était la peine capitale. Ou pour l'adultère. Mais aujourd'hui, ces sanctions n'existent pour aucune de ces lois, aucune de ces violations. Donc cette rigueur extrême de la loi de l'Ancien Testament ne fait pas partie de notre manière chrétienne d'observer le jour du Seigneur. Ok? Ensuite, le jour est passé du septième jour au premier jour de la semaine. Les Juifs gardaient quel jour comme sabbat? Le samedi. Nous gardons le dimanche. Le dimanche est quel jour de la semaine? C'est le premier jour. Pour nous, c'est le premier jour. Le septième jour, c'est le samedi. Le septième jour a été consacré comme sabbat. Ok? Dans le calendrier juif, le septième jour, c'est le samedi. Donc, on travaille six jours et on arrive au dernier jour, le septième jour, c'est le samedi, on se repose. D'accord? Pourquoi est-ce que le Seigneur a changé le jour? Parce que dans l'Ancienne Alliance, quand le premier Adam est créé, il reçoit le sabbat. Mais pour arriver au sabbat, il doit travailler six jours. Travailler, et s'il finit tout son travail, il peut se reposer. Cela nous donne une image d'un salut par les œuvres, d'une alliance des œuvres, n'est-ce pas? Et Adam a échoué, n'est-ce pas? Il a échoué dans cette manière de faire ce que Dieu lui a dit, et puis obtenir, entrer dans le repos de Dieu. Il n'est pas entré dans le repos de Dieu, le salut, parce qu'il a péché. Maintenant, un deuxième Adam est venu. Il a travaillé, mais il a achevé le travail, il a fait tout ce que nous aurions dû faire, il a achevé tout ce qui nous appartient comme devoir, et il est entré dans son repos. À partir de sa résurrection, qui est son repos, il s'assoit à la droite de Dieu, nous, ça change tout. Maintenant, nous n'avons pas à travailler pour notre salut, pour entrer dans le repos de Dieu, nous entrons par la foi gratuitement dans le salut tout de suite. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu es entré dans le repos de Dieu? Gratuitement par ce qu'il a fait, parce qu'il a œuvré, et tu reçois. Eh bien, c'est le cas de tout chrétien, et ça peut l'être le vôtre aussi. Mais en tout cas, nous commençons avec le repos dans la semaine, et nous travaillons à partir du repos. C'est très différent, ça. Je ne travaille pas pour y arriver. Je travaille parce que j'y suis arrivé en Christ. Ça change tout. Donc maintenant, vous voyez que le Christ a changé le vêtement. C'est un vêtement de grâce et non pas de loi. Il a changé le jour et il a changé le nom. Dans le Nouveau Testament, on n'appelle jamais le dimanche que les chrétiens gardent le sabbat. Pas une seule fois. Vous savez pourquoi? Il y a une raison très logique, parce que le sabbat est un mot qui est tellement chargé de connotations pour les juifs, qui est tellement le samedi, l'observance juive, qu'on ne peut pas utiliser ce jour pour parler du dimanche. D'accord? Parce que tout le monde va être complètement dans la confusion. Tu dis sabbat, et lui, il pense samedi, et il pense juif. Donc, les chrétiens ont changé le nom et ils parlent du jour du Seigneur. Ça nous aide beaucoup à comprendre certains passages dans le Nouveau Testament qui disent qu'il n'y a plus de sabbat. Ça veut dire, non pas qu'il n'y a plus de jour du Seigneur, mais qu'il n'y a plus de samedi juif. D'accord? Le sabbat est toujours le samedi juif dans le Nouveau Testament. Toujours. Je vous lance le défi. Prenez tout le livre des Actes et des Épîtres et vous allez voir, le sabbat est venu. Ça parle toujours de samedi. D'accord? Ok. Donc, nous arrivons maintenant à la toute dernière chose qu'on peut dire. Et ça, c'est simplement que l'Église aussi, l'Église primitive, a gardé le jour du Seigneur. Il y a un quatrième commandement pour les chrétiens dans le Nouveau Testament. Ils sont commandés, ils sont ordonnés, ils obéissent. Nous voyons en Actes chapitre 20 ceci. Pour nous, c'est après les jours de pain sans levain, nous nous sommes embarqués à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Le premier jour de la semaine, non, dimanche, nous étions assemblés pour rompre le pain. Nous avons fait le culte. Mais il dit quel jour? Le premier jour. Il est là depuis 7 jours, mais il ne célèbre le culte et la scène que le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Deuxième passage, 1 Corinthiens 16. Pour la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui, la traduction n'est pas très, très bonne, mais ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Donc, ce verset signifie qu'il y a une collecte qui se fait, mais qui se fait le premier jour de la semaine. Pourquoi dans les églises de Galatie et Corinthe, tout le monde doit faire comme ça? Parce que c'est le jour où ils sont de toute façon ensemble pour le culte, parce que c'est le jour du Seigneur. C'est une habitude qui est déjà installée. Le premier jour de la semaine, il y a la collecte, parce qu'il y a la scène, parce qu'il y a le culte. Mais le dernier passage est peut-être le plus important, Apocalypse 1, 10. C'est Jean qui dit, le jour du Seigneur, je fus ravi en esprit et j'entendis derrière moi une voix forte comme d'une trompette. Il dit, j'étais sur l'île de Patmos, j'étais persécuté, exilé, et un jour, j'ai entendu la voix du Seigneur derrière moi. Mais il dit, c'était le jour du Seigneur. Et apparemment, il n'explique pas ce que c'est que le jour du Seigneur. Il dit juste le jour du Seigneur, je fus ravi en esprit, comme si tout le monde va comprendre quel jour est le jour du Seigneur. Oui, parce que à la fin de la période apostolique, parce qu'il écrit l'Apocalypse, le dernier livre a été écrit, tout le monde déjà utilise le terme le jour du Seigneur pour parler du dimanche. En l'année 107, j'aurais pu vous donner plusieurs exemples des pères de l'Église, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas les apôtres, qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont vécu très proche. Ignace d'Antioche était une de ces personnes. Il a écrit vers l'année 107 ceci. « Si donc ceux qui vivaient dans l'ancien ordre des choses, dans le judaïsme, sont venus à la nouvelle espérance, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur, jour où notre vie s'est levée par lui et par sa mort. » Donc vous voyez que déjà en l'an 107, les chrétiens ne disent plus le sabbat pour le jour du culte, ils disent le jour du Seigneur, mais ils n'ont pas fait disparaître le quatrième commandement. « Souvenez-vous du jour du Seigneur pour le garder saint » a toujours un sens pour Ignace. D'accord ? Il dit que nous adorons le Seigneur, le jour du Seigneur. Jour de repos, jour d'adoration, jour de réjouissance. Car quand nous nous reposons, nous sommes en train de goûter déjà un peu de paradis, le repos de notre âme qui viendra un jour en raison du salut en Christ. Ouf, ok, on a fini. Donc, merci de votre patience. Mon seul but aujourd'hui était de vous aider à comprendre que le quatrième commandement n'a pas disparu des 9 autres. Nous devons garder le jour du Seigneur, mais le jour du Seigneur est une bénédiction. Faites vos délices du Seigneur, du jour de repos, du jour du Seigneur. Profitez dans la famille pour... nous avions l'habitude quand les enfants étaient là, chaque après-midi, après le repas, si on avait des visiteurs quand ils étaient partis, je prenais un bon livre, mais pas un livre abstrait, un livre chrétien qui parlait d'une biographie, le voyage du pèlerin, enfin quelque chose que même pour les jeunes enfants pouvait être accrochant. Et on lisait pendant 20 ans. On avait un moment et on s'est dit souvent que ce moment était le meilleur moment de notre semaine. Et souvent, les enfants disaient « Oh papa, un chapitre de plus, s'il te plaît. » Et ma femme en est témoin. Et on faisait du jour du Seigneur un jour spécial, un jour où on était à l'aise, mais tourné vers les choses formidables du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse en gardant son jour. Nous allons célébrer la scène. Mais nous allons juste prendre un moment pour chanter au début, pour nous mettre...